m'appelle monstre de nature. Ça te fatigue de me voir travailler?
Travailler? Parlons-en de ton travail. Ça doit pas t'en aider beaucoup, des ampoules, hein?
Des ampoules aux mains? Ça non, mais tu la vois cette bricole?
Ben ça, c'est le martyr du rémouleur.
France Inter, CO2 Mon Amour, avec Denis Chessoux.
Le martyr du rémouleur. Y a-t-il encore des rémouleurs? Oui, sûrement des aiguiseurs d'idées. C'est ça qui nous intéresse en fait dans cette émission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui Sandrine Laurent et Élise Christophe à la technique. Je n'oublierai pas Albert Houck, Stéphane Combe et Fabrice Laigle qui réalisent l'émission. Alors, une petite humeur. On savait le breton volontiers enclin à immoler des portiques écotaxes. On ne savait pas qu'il dynamitait aussi à l'occasion des rochers classés. Pourtant, on pouvait penser que depuis Carnac, la pierre et les hommes faisaient plutôt bon ménage en terre d'Armorique. Eh bien, toute règle ayant ses exceptions, un habitant de Lochirec dans le Finistère, c'est à la limite des Côtes d'Armor, a décidé de faire un peu de ménage devant ses fenêtres. Oui, le caillou dans la chaussure, vous savez, comme c'est énervant. Aussi, le rocher encombrant, bah c'est pareil, si assez ça vous encombre le paysage, vous n'avez même pas idée de la gêne. Alors, dans un cas comme celui-ci, le plus simple, c'est de prendre un marteau-piqueur et de faire un peu de place. Quand on veut une vue sur la mer, il faut parfois s'en donner les moyens. Eh oui, certes, cette roche ne faisait pas partie du domaine public. Non, non, elle était bien dans la propriété du chatouilleux du marteau-piqueur. Qu'importe si les rochers en question sont de l'Orthomniès vieux de 2 milliards d'années, qui n'existe plus qu'en Bretagne, et classé au patrimoine géologique, mais c'est un fait avéré, on ne respecte plus les anciens. Bon, vous me direz, on protège un rocher de 2 milliards d'années contre un individu, alors que nous sommes 7 milliards d'humains à plus ou moins bousiller la planète. D'accord, les mer dégage des arbres centenaires en veux-tu en voilà, le dernier là c'est à Sainte-Livrade. Quand on voit comment est traitée la biodiversité de par le monde, on s'étonnera moins d'apprendre que le sort qui est réservé aux vieilles pierres, ici et là, est un peu décourageant. Autre événement indirectement lié à la géologie, la nomination du prochain commissaire européen à l'énergie et à l'action pour le climat. Ah bah oui, qui dit climat dit énergie et dit fatalement pétrole. D'ailleurs, le candidat présenté par l'Espagne pour occuper le poste n'est autre qu'un monsieur entretenant des liens assez étroits avec l'industrie pétrolière. Surnommé « Señor Petrol » par ceux qui le connaissent bien, Miguel Arias Cañete est un ancien dirigeant de compagnie pétrolière et, durant 25 ans, et ben, comme il a le sens de la famille très développée, cet homme il a profité de ses responsabilités politiques pour favoriser ses affaires, son fils, son beau-frère occupant un poste important. Il vient de vendre vite fait ses parts de société parce que ça faisait un tout petit peu désordre. Alors n'allez surtout pas croire que dans ces conditions, le conflit d'intérêts pourrait pointer son vilain groin. Non, si sa candidature est retenue par la Commission européenne, M. Cañete, qui fut le roi du pétrole, n'aura de cesse de prôner une économie verte, économe, vertueuse, éthique et prenant ses distances avec le carbone. Oui, puisqu'on vous le dit. Et comme avec M. Juncker, un miracle n'arrive jamais seul, est aussi pressenti cette fois-ci comme commissaire en charge de la régulation des services financiers et de la stabilité financière, M. John Hill, qui est un homme de la City et de la Bourse. Bon, vous me direz, ça ne date pas d'hier que l'on confie au renard les clés du poulailler. Quatre chapitres vont venir rythmer ce magazine. L'homme qui plantait des oliviers sur une terre bien pourrie à l'origine. Babette et Raphaël Colicci vont nous emmener, nous allons les retrouver dans ce département de l'Hérault et ils ont redonné de la vie à ce merveilleux espace. Avant le magazine Interception de demain, donc on s'intéressera avec Pascal Dervieux aux agriculteurs malades des pesticides. C'est pas une fable de La Fontaine, non, c'est un truc malheureusement assez moderne. Avec Jean-Marie Pelt, nous ferons un coucou à l'archange, à la reconquête de l'espace maritime du Mont-Saint-Michel. Et dans l'actualité nationale, ben vous n'entendrez absolument pas parler du congrès des conservatoires des espaces naturels qui a lieu ce week-end à Thionville. C'est le moment donc de rejoindre Christophe Lépine qui est secrétaire général de la Fédération de ces conservatoires. Christophe Lépine, bonjour à vous. Alors je rappelle qu'il y a 29 conservatoires, 2500 sites, 200 000 hectares donc qui sont gérés. Alors on s'y perd un petit peu avec les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux qui fêtent d'ailleurs leurs 50 ans aussi cette année. Il y a aussi les réserves naturelles. Quel est le rôle de ces conservatoires des espaces naturels ?
Bonjour Denis. Alors les conservatoires d'espaces naturels, d'abord il faut dire que ce sont des associations avec plus de 8000 adhérents et donc vous pouvez rejoindre ces associations qu'il y a maintenant dans quasiment toute la France. Et notre rôle, eh bien ça va être à la fois de faire de la connaissance scientifique, découvrir la faune et la flore, mais surtout de protéger et de gérer des sites naturels. Notre mission, ça va être d'essayer d'acheter, louer ou de conventionner avec des propriétaires qui ont des petites pépites de nature chez eux ou dans leur commune. Et nous, eh bien on va les protéger à long terme, c'est-à-dire qu'à la fois on va les entretenir, on va restaurer ces milieux naturels qui auront peut-être été dégradés par le temps ou aussi par l'abandon par exemple du pâturage, des activités humaines, et puis il y a tout un volet de valorisation, c'est-à-dire qu'on va évidemment ouvrir les sites au public, éventuellement les aménager et essayer de faire découvrir toute cette richesse naturelle au plus grand nombre.
Christophe Lépine, quel est par exemple le rapport entre l'eau potable et un conservatoire d'espaces naturels dans le Puy-de-Dôme ?
Eh bien le conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, il gère un certain nombre d'espaces naturels exceptionnels. Et il y en a un, eh bien, il se trouve que c'est au niveau d'une zone humide. Et cette zone humide, c'est là que la ville de Clermont-Ferrand va y chercher son eau potable. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement le conservatoire va protéger la faune et la flore intéressantes là, mais de fait, ça va faire une zone humide de qualité. Et donc, l'eau potable que vont boire les habitants de Clermont-Ferrand, eh bien, elle sera de meilleure qualité. Et puis surtout, elle sera certainement moins chère à traiter. Donc, on a là un lien très intéressant entre la protection de la faune et de la flore et aussi, évidemment, l'économie, l'écologie, le développement des territoires.
Maintenant, un autre exemple, nous sommes dans la vallée de l'Oise, entre Noyon et Compiègne, que se passe-t-il ?
Eh bien là, vous avez une vallée qui déborde chaque hiver et qui crée des fois des inondations dans certaines communes. Or, ces prairies qui sont inondées, elles sont très intéressantes parce que comme l'eau déborde en hiver, vous avez une végétation qui est super rare avec derrière des espèces qui sont très très rares comme le râle déjeuner qui est un petit oiseau parmi les 5 oiseaux les plus menacés au monde. Nous, on va protéger ces prairies et ces parcelles parce qu'elles sont intéressantes au niveau naturel, mais en les préservant, vous permettez à la rivière de déborder naturellement et si elle déborde là, eh bien, elle ne débordera pas dans les villes et les communes. Et en plus, on peut travailler avec les agriculteurs qui sont sur place et on leur offre, nous, ces prairies en échange de quelques conditions pour bien gérer, évidemment, les pâtures. Et ça leur permet d'avoir eh bien, des pâturages pour leurs animaux. On a même recréé sur place un fromage particulier qui avait disparu, qui s'appelle le Manicamp et que je vous incite à déguster. Je vous en ramènerai.
Excusez-moi, parce qu'on ne l'a pas bien entendu. Donc comment il s'appelle ?
Le Manicamp, comme le nom du petit village où se produit ce fromage.
Un dernier exemple, on va partir dans le Languedoc-Roussillon. Et là, nous voyons quoi ? Une saline.
Voilà, on est au bord de la Méditerranée et vous avez un site exceptionnel qui est propriété du Conservatoire du Littoral et qui en a confié une partie de la gestion au Conservatoire d'Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon. Et là, évidemment, on fait aussi beaucoup de travaux de restauration, d'aménagement, mais c'est aussi, il y a un site qui est à côté de plages qui sont très, très fréquentées. Alors le Conservatoire, eh bien évidemment, il va faire des actions de protection, mais il va aussi inviter le public à venir découvrir tous ces oiseaux, toutes ces plantes un peu rares. Et donc, on a aussi, évidemment, une grosse activité d'éducation à l'environnement.
Merci à vous, Christophe Lépine. Alors cette émission, c'est la vôtre. Intervenez, vous le faites vraiment. 01 56 40 40 35. Je le répète, 01 56 40 40 35. Vous avez d'ailleurs aussi le site, hein, franceinter.fr. Vous le savez, c'est au de mon amour. De temps en temps, ça ne marche pas. Je suis d'accord. Mais là, maintenant, quand même, on a fait des efforts. Donc ça fonctionne beaucoup mieux. Voici les messages.
Bonjour Denis, ici c'est Jean-Luc Toulec, président de l'association Bretagne Vivante, premier asso de protection de la nature en Bretagne. Bon, je vous appelle pour un coup de gueule, hein. Nous sommes vraiment sous le choc, là, le préfet du Finistère a décidé de nous écarter de la gestion de la réserve naturelle d'Iroise. Et Bretagne Vivante a largement contribué à la reconnaissance, à la connaissance, la reconnaissance et la valorisation de ce territoire dès les années 60 et a initié la mise en place de la réserve naturelle que nous gérons depuis 1992. Et là, nous pensons que l'État fait un choix qui est mauvais à double titre. Premièrement, le risque, c'est évidemment que la qualité de la conservation des études et la continuité de ce qui a été fait ne soit plus assurée demain ou pas avec la même qualité. Et le deuxième risque, c'est un risque démocratique. C'est tout simplement qu'il y a un manque de reconnaissance des associations. Donc, on appelle à Bretagne Vivante les citoyens à nous soutenir en allant sur le site de Bretagne Vivante, www.bretagne-vivante.org et a signé la pétition qui est en ligne pour qu'on puisse l'envoyer à Madame Ségolène Royal. Merci Denis et merci à tous pour votre soutien.
Oui, bonjour, c'est Bernard. Un bon écolo ne mange pas de viande, ne roule pas en voiture, prend les transports en commun, ne fume pas, n'a pas de mobylette, ni de scooter, ni de véhicule de roue, et ne se mêle pas de politique et s'occupe que d'écologie. Oh, de toute façon, faut pas s'affoler, dans à peu près 5 milliards d'années, l'univers va disparaître, alors vous savez. J'avais peur que ce soit dans 5 millions d'années, mais on m'a dit 5 milliards d'années, alors c'est sympa. Voilà.
Bonjour, c'est un message pour tous les amateurs d'orchidées et de fleurs exotiques, notamment les fougères et les cactus. Le samedi 11 et le dimanche 12, il y aura à Roquefort-les-Pins, sur la Côte d'Azur, un salon organisé justement sur les orchidées. Donc l'entrée est gratuite et il y aura une tombola avec des lots. À bientôt.
Voilà, on peut même gagner des cactus, hein. Donc vous avez bien compris, avec les lots. Donc si vous avez quelqu'un que vous aimez bien, bah vous lui offrez un cactus, vous le mettez dans son lit, et c'est extrêmement facétieux. Dans quelques instants, nous allons partir à Saint-Privat, dans l'Hérault, découvrir l'homme qui plantait des oliviers. Mais auparavant, voici Lisa Ekdahl, choisie par notre programmateur, donc Thierry Dupin, qui vient d'où ? De Stockholm, me semble-t-il. Oui, c'est une Suédoise, donc elle vient à vélo avec son CD sous le bras. Why do I love you? Continue to flow, heavenly showers, so warm in July. Questions are resting, we don't ask why. We don't lack nothing, we have each other. You are much more than a friend and a lover. Heavenly showers, so warm in July. We feel like children once again, you and I.
So warm in July. Questions are resting. We don't ask why.
C'est au de mon amour.
Oh, hey, hein, bon.
Denis Chessou. Sur France Inter.
Et après Lisa Ekdahl et la Suède, nous allons partir maintenant dans le département de l'Hérault.
Vous voyez, on a deux grands ennemis ici. Ce sont les sangliers qui détruisent les cultures. Donc ça devient impossible d'être agriculteur dans des zones sauvages comme ici. Et le vent qui est violent toute l'année.
Et pourtant vous y arrivez.
Et là j'ai cloné un olivier qui a 3000 ans. parce qu'on a sauvegardé une parcelle en Espagne, parce que les cheikhs arabes voulaient tout détruire. Et là, on les multiplie, parce que ça, moi, je vais être en cohérence avec... vu que j'ai retrouvé comment on fabriquait l'omphacine, l'huile des Grecs, mais je l'ai fait avec des olives qui ont 1000 ou 2000 ans. Et là, on a retrouvé la variété grecque, Farga. Et les premiers pharmaciens grecs utilisaient cette huile pour faire leurs médicaments.
Alors, je vais vous emmener sur une terre de cailloux et de vent. On est sur les contreforts du Larzac. Hein. On est absolument sous le plateau. On est à 400 mètres d'altitude à Saint-Privat, dans l'Hérault. Et on a une pensée, évidemment, pour ce département et ainsi que celui du Gard, qui soigne ses plaies actuellement des épisodes cévenoles. Et on va rencontrer Babette et Michel Colicci, qui régénèrent la terre et les hommes aussi, grâce aux oliviers et à leur oléatherme. Alors, il faut imaginer ce lieu où il y avait des anciennes carrières, hein, desquelles on extrayait de la pierre à meule. Et alors, on a le sentiment que le bon Dieu, si vous voulez, a déversé ses cailloux. Vous ne savez pas où les mettre. Plaf, il a secoué son sac. Et alors, il y en avait partout, ce qui fait que ce terrain ne correspondait à aucune grille agronomique. Autrement dit, il ne pouvait rien pousser. Alors, je sais bien qu'en arrivant, vous avez une petite statue de Saint Bruno qui vous accueille, planquée dans les arbres, mais il y est vraiment pour très peu de choses. La ténacité, l'observation et l'envie de vie de Raphaël et Babette Colicci, là, vraiment, on fait surtout le reste. Ils ont rencontré Pierre Rabhi, ils sont devenus d'ailleurs amis, on le salue parce qu'il nous écoute en ce moment, Pierre, et ils se sont échangés des conseils de pauvreté, oui, de pauvreté du sol, en se disant qu'un sol pauvre peut être riche, peut exprimer sa puissance de vie si on l'aide, si on le comprend, et bien sûr sans chimie. Alors Raphaël Colicci est un fou de végétaux, un peu comme Okusai était un vieux fou de dessin. C'est un fou de la vie en devenir. C'est un ostéopathe du sol. Voilà, c'est ça. C'est un agrothérapeute, un botaniste. C'est aussi le président des fruits oubliés. Et lorsque vous arrivez dans ce domaine, donc à Saint-Privat, vous avez des ruchers partout. Je les ai toutes dénombrées. Il y en avait 2 millions et demi. Autrement dit, vous avez une cinquantaine de ruches. Et puis, eh bien, en échange de la nourriture, elles font leur boulot de pollinisation. Voici donc un portrait, celui de l'homme qui plantait des oliviers dans l'Hérault, dans le joli site de Saint-Privat. On n'est pas loin de l'Odève. Et il a fallu vraiment s'accrocher en arrivant sur cette terre ingrate.
Évidemment, on a cherché du terrain pour s'installer comme agriculteur. On nous a vendu les pires terrains, des terrains d'ailleurs stériles, car la chambre d'agriculture nous a interdit de nous installer parce qu'il n'y avait pas de matière organique et la roche mère est à 40 cm et au-dessus, il y a de l'argile et du sable délité. Et c'était mission impossible.
Alors en fait, pas du tout. Et vous avez travaillé ça alors à la fois en biodynamie, en rapportant de l'humus. Qu'est-ce que vous avez fait ?
J'ai regardé quelle est l'herbe ou la céréale la moins chère. Oui. C'était de l'avoine. Il y a eu un grain d'avoine et on a commencé à ensemencer cette terre avec aussi tous les déchets de l'agriculture, de la taille, de bois raméal fragmenté. Oui. Voilà, tout ce que je pouvais trouver comme déchets végétaux, j'ai essayé de créer l'humus.
Aujourd'hui, vous, créateur de biodiversité, il faut le dire, il y a je ne sais pas combien de centaines d'oliviers. Je sais qu'il y a plus de 1000 arbres maintenant ici qui n'existaient pas.
Oui, nous avons planté 1200 oliviers. Même nous pensions qu'ils n'allaient pas pousser. Au miracle, au bout de 3-4 ans, ils ont fait leurs premières olives. Et l'autre partie de nos cultures, ce sont les arbres de la biodiversité.
Oui.
Voyant que nous n'avions presque plus de choix dans les arbres anciens, j'ai voulu créer des vergers conservatoires. Et maintenant, nous avons plus de 1080 variétés qui allaient disparaître sur ce terrain stérile. Et nous avons de belles productions. Et c'est même un lieu d'enseignement, puisque voilà, des botanistes, des curieux viennent d'un peu partout pour... apprendre et goûter à ces vieilles variétés. Oh. Oh.
On va se retourner vers cet arbre. Et là, j'ai découvert aussi avec vous, qui est parti d'Afrique. En général, on n'a pas forcément la notion d'Afrique lorsqu'on parle de l'olivier.
Tout comme l'homme, il est venu du rif africain. Ouais. Et ensuite, il y a eu plusieurs clones. Un est parti vers l'Asie et l'autre vers la Méditerranée. Oui, là, c'est le vent qui descend du Larzac. On est habitué, mais c'est gage de beau temps. Hein.
Ouais. Alors, attendez, on va se planquer un tout petit peu parce que sinon on va pas pouvoir enregistrer. Voilà, c'est quand même ses limites, la technique.
La feuille de l'olivier est riche en oléine européenne qui éloigne déjà les maladies. L'olivier est un arbre qui n'a aucune maladie quand on n'en met pas des milliers les uns contre les autres. S'il est suffisamment aéré, au soleil, taillé, les actifs qu'il y a dans ses feuilles sont donc très bons pour l'arbre. Je pense qu'il y a aussi des molécules qui assurent sa longévité. Et ce qui est intéressant, c'est d'extraire ces actifs pour la santé de l'homme.
Alors, qu'est-ce que ça peut soigner ou en quoi ça nous aide?
La pharmacopée classique indique la feuille d'olivier pour la tension artérielle. Oui. C'est un des fruits où il y a le plus de déchets, si j'ose dire. Et ça fait des années que je m'insurge. Nous jetons entre 82 et 87% de ce fruit. Nous passons toute l'année à le cultiver et nous gardons que l'huile d'olive qui, en général, en moyenne, produit 17% du poids total du fruit.
Ce qui veut dire qu'il faut quoi 100 kilos
et ça, pour faire en moyenne 15 à 17 D'accord. litres d'huile d'olive. Et il faut savoir qu'il y a environ 50% de margine, hein, c'est l'eau de l'olive, qui est pleine de minéraux et de polyphénol, puisque le polyphénol de l'olive est hydrosoluble. Et tout ça, il faut payer des sommes importantes à l'agence de l'eau pour l'éliminer, parce que c'est considéré comme un déchet industriel.
Alors, qu'en faites-vous ?
Alors, moi, j'ai un autre concept. J'ai créé, si vous voulez, avec Jacques Dubois et Jean-Louis Laforie, nous avons créé le totem de l'olive.
Ah, qu'est-ce que c'est le totem ?
Eh bien, on garde tout. Et en fait, on garde tous les minéraux, toutes les vitamines et surtout les polyphénols. Les polyphénols, leur rôle, c'est de combattre l'action antiradicalaire qui se passe avec la pollution, avec le stress, tout ce qui, en fait, rentre dans un processus d'oxydation oui. et de vieillissement des cellules, des organes.
Il veut planter de l'authentique partout. Qu'est-ce que c'est ?
Ça doit être une plante qui pousse dans les livres.
Il faut être moderne. Il m'a dit, il faut être moderne.
Je te parie 10 francs qu'il t'a parlé de la routine.
Et oui. Et c'est quoi?
C'est un mot de la ville. La routine, ça veut dire ce que les vieux nous ont appris et que d'après eux, il faut tout foutre en l'air parce que c'est pas moderne. Et que maintenant, il faut être moderne. De la pure couillonnade.
Elisabeth Colicci, là on rentre dans le labyrinthe des senteurs.
Oui, on a créé le labyrinthe des senteurs. Donc c'est à petite échelle, mais c'est un petit labyrinthe où on a choisi de planter les meilleurs senteurs. C'est assez original. Là par exemple, c'est de l'hélicryse. On a des sauges spéciales, du thym citronné, des verveines, toutes différentes senteurs méditerranéennes, bien sûr. Ici, on a la mare qui vient régénérer l'eau de la piscine.
Ouais. Donc, un régal pour les papillons, pour les abeilles aussi, parce qu'on a quand même des plantes mellifères dans tous les sens.
Voilà, ça, c'est de la verveine citronnée. Là, c'est un petit coin d'agrumes. Raphaël collectionne des agrumes. Ouais. Là, on a un citronnier, un oranger, enfin, des variétés très particulières.
On ne se pose pas la question de savoir comment on est relié, là. Hein. On est relié directement.
On est relié directement. On pose les pieds sur terre et on est déjà bien dans les bonnes ondes telluriques qui ressourcent tout de suite.
Avec cette pierre qui est quand même très jolie quand elle prend alors vraiment la couleur.
Alors la pierre, c'est un grès avec du quartz qui a servi aux meules
à Élysée. Hein. Il y a eu, une économie de meules ici. Les gens ont travaillé la meule pendant une centaine d'années. Ils ont travaillé très dur. Le pays était pauvre et ils ont créé des meules. Maintenant, la meule synthétique est arrivée.
C'était de la meule au rémouleur, c'était
c'est,
ça.
C'est de la meule au rémouleur, voilà. Des meules à Élysée.
Vous recréez la biodiversité ici. Vous recréez la nature.
Ah ben oui, on recrée la nature, mais on l'a... En fait, on la recrée, mais on la respecte aussi. C'est-à-dire qu'on veut garder le côté sauvage et on recrée la vie parce qu'on a recréé de la terre, de l'humus. Il a fallu amener et faire vivre et recréer cet humus. Mais on plante différentes choses qui veulent bien pousser. Ce qui ne veut pas rester, c'est la nature qui décide. On n'a pas eu à mettre d'engrais... Quelques engrais organiques, on a mis nos chevaux dans les oliviers, dans les arbres fruitiers, pour qu'ils nous redonnent cette herbe sous forme d'engrais vert, quoi, d'engrais organique. Et voilà, et ça se fait tout doucement, et ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on est là, et puis qu'on réussit à créer une terre, créer sa terre. Là, on est dépourvu de toute pollution, on a le ciel, la voie lactée, chaque nuit, et qui vient nous donner, nous ressourcer.
Alors là, nous traversons des vignes en apparence, mais ce sont en fait des raisins de table. Et il y a 422 raisins de table différents. Voilà, là, ce sont les précoces, des raisins très anciens. Il y a le raisin de Palestine, dont la grappe fait pratiquement 80 cm. Donc c'est un raisin qui a 6000 ans. Il y a le César qui est un peu cornu là.
Ouais.
Hein, c'est des grappes de raisins qu'on n'a pas l'habitude de voir. Regardez l'abondance de ces grains.
Ils ressemblent presque à des olives.
Oui, oui.
C'est curieux comme forme.
Oui, oui, c'est... Voilà, tout ça, ce sont des cépages très très anciens. Oui, alors ce que j'aime bien, c'est sauvegarder des variétés emblématiques d'un territoire et souvent qui portent le nom d'une ville. Donc, vous avez eu la prune de Barjac tout à l'heure.
Voilà.
On est passé devant la prune jaune de Pézenas, devant la petite prune d'Axat dans l'Aude. Tous ces fruits, tous ces légumes étaient des ambassadeurs naturels d'un territoire.
Ouais.
Puisque chaque pratiquement zone climatique et de terroir a produit une variété.
Ce qui vous dirige depuis très longtemps, Raphaël, c'est l'autonomie.
Que chacun cultive son jardin. S'il n'en a pas, il peut le faire sur le balcon. Sinon, il y a maintenant dans beaucoup de communes des jardins partagés. Et ce sont des actes qu'on peut poser afin de gagner un minimum d'autonomie alimentaire, de voir la puissance de la graine. S'ils n'ont pas d'argent, nous donnons des greffons chaque année pour que les gens, à moindre frais, puissent avoir des fruits, des graines. Nous faisons des échanges de graines. Les échanges humains permettent aussi d'acquérir des choses à moindre coût. Alors, nous entrons ici dans le verger de grenadiers. Nous avons environ 600 grenadiers en tout. Et là, vous voyez, elles sont toutes différentes par leur forme, par leur couleur. Là, vous avez la Fleischmann, qui est la Rolls au niveau du goût.
Ouais.
Nous avons environ 45 variétés.
Vous n'êtes pas fauché au niveau des cailloux hein, quand même ici, hein. On le voit bien. Hein.
Alors là, c'est une nouvelle parcelle qu'on va cultiver l'automne prochain en grenadier. Mais il faut d'abord enlever les cailloux.
Oui.
On met 2 à 3 ans avant de rendre le terrain propre à la plantation.
Ouais, vous avez des ruches un peu partout. Hein.
Oui. Alors là, vu que le climat se réchauffe, le noyer n'arrive plus à pousser. Et il est en difficulté, donc j'ai créé une collection d'une vingtaine de noix de pécan, parce que la noix de pécan résiste beaucoup plus à la sécheresse et à ces hautes températures.
Et hop, on change de continent là.
Et oui, là, vous voyez, il y a un magnifique verger de yuzu, c'est le citron sacré des Japonais. Alors ce yuzu a un parfum inimitable et les grands chefs ne s'y sont pas trompés, ils l'utilisent beaucoup en cuisine. Mais voilà, on a fait un accord avec une coopérative japonaise qui en a marre d'envoyer ses fruits à 20 000 km. Donc je vais proposer aux agriculteurs de créer cette nouvelle filière de yuzu qui, greffée sur Poncérus, résiste très bien au froid. C'est magnifique, c'est bon, tu te mets à genoux. Tu te mets à genoux quand tu manges ça.
Ouais.
Et ça pousse en France, voilà. Pourquoi vous avez élu domicile ici, vous, qui êtes un homme de la Savoie au départ ?
Ils appellent ça de la montagne, alors que c'est un plateau. Donc j'avais la vision quand même un peu de la Savoie. Et puis le sud, l'olivier, mes ancêtres italiens ont toujours cultivé l'olivier. Et c'était une façon de renouer avec mes racines méditerranéennes.
Alors aujourd'hui, vous avez bien sûr ces oliviers, vous en avez 1200, mais plus de 2000 arbres qui sont en train de regagner le ciel. Alors cet homme-là, on s'en doute bien, donc travaille avec des semences paysannes, donc échange au maximum avec les uns, donc avec les autres. Et c'est comme ça aussi que l'on sauve cette biodiversité. Et donc merci Raphaël et Babette Colicci, donc à Saint-Privat, dans ce très beau département de l'Hérault, je vous le disais, sur les contreforts du Larzac. Et comme cette émission est une terre de contraste, eh bien nous allons parler maintenant, dans quelques instants, des agriculteurs, mais là qui ont quelques soucis avec les pesticides. Voici, on les attendait depuis 7 ans, mais oui, Massilia Sound System sur France Inter.
ton bonheur.
Que lorsque la liberté aurait déserté le monde, il resterait toujours un homme pour en rêver.
Nouveauté France Inter, Massilia Sound System, donc eux Marseille, Zebda Toulouse, et nous, nous allons partir dans le milieu agricole, puisque demain 5 octobre, Interception diffuse un reportage de Pascal Dervieux sur ces agriculteurs qui attaquent en justice les grands groupes de l'agrochimie pour défaut d'information ou d'informations mensongères qui sont imposées sur leurs produits. Alors, information ou désinformation, qui aboutissent donc aujourd'hui à des pathologies quand même assez graves chez les agriculteurs, et c'est un sujet où on va bien comprendre qu'il est assez tabou. Et on va commencer par un homme qui aurait pu fréquenter Raphaël Colicci. Il s'appelle Jean-François Lipout. Il est à Ajat dans le Périgord. Et donc, Pascal Dervieux l'a rencontré. Et ce sont, je tiens à le dire, ce sont des extraits inédits. Vous ne les entendrez pas demain dans l'émission.
Là, Jean-François Lipout, qu'est-ce que vous êtes en train de manipuler ?
Là, je suis en train de brasser la fougère pour que le purin se fasse. Donc, on remue comme autrefois la vendange, hein, si vous voulez, dans les cuves. Voilà, c'est exactement le même principe.
Et quelles sont les vertus de ce produit ?
Alors, la fougère, c'est particulier, c'est insectifuge pour beaucoup. Hein, donc, c'est pas acide, hein, c'est-à-dire qu'il ne tue pas, qu'il repousse. Et puis, en même temps, il y a quand même pas mal de phosphore dans la plante, donc ça aide aussi à développer le système racinaire.
Qui sont les agriculteurs qui viennent vous trouver ?
Ah, c'est très varié, hein. Ça va, enfin beaucoup, on est en Dordogne, là, donc on travaille beaucoup avec la fraise du Périgord. Mais ailleurs aussi, là, j'en expédie qui partent en Bretagne, à Plougastel. Après, on travaille pas mal avec les maraîchers et les producteurs de fruits. Hein. On fait des essais aussi en grande culture, 90% à peu près de mes ventes, pour ce qui concerne le monde agricole et fait avec des gens qui ne sont pas en bio.
Il y a aujourd'hui de plus en plus d'agriculteurs qui se portent en justice et qui gagnent contre des groupes industriels, y compris les plus grands.
Mais bien sûr, il y a une attente et il y a une demande. Moi, je travaille par exemple, on fait des essais avec Paul François. Bon, c'est quelqu'un qui est très connu, qui a été empoisonné au lasso, qui a même gagné le premier procès contre Monsanto en France. Mais pourquoi il continue encore avec des produits chimiques dans les médias ? C'est parce qu'il n'a pas d'alternative et il ne sait pas comment faire. Donc si les chambres d'agriculture, si l'INRA, tout ça s'y mettaient et accompagner tous ces gens-là, et y compris moi-même, on pourrait peut-être avoir des produits beaucoup plus efficaces, et en tout cas pas chers et accessibles. Et puis voilà, et il y a des solutions. Avec des produits aussi simples que ça, on a des résultats qu'il n'y a pas en chimie.
À présent, un des avocats spécialisés dans ces histoires qui vient de remporter la victoire au nom de deux salariés d'une grosse coopérative de l'agroalimentaire de Bretagne parce qu'ils ont été intoxiqués assez gravement par des céréales traitées pour le stockage. Maître François Lafargue a défendu aussi Paul François, donc qui a remporté une victoire judiciaire contre Monsanto. Alors bon, cette bataille ne fait que commencer. D'un côté, des moyens assez énormes de la part des grands groupes et puis de l'autre, des moyens qui sont beaucoup plus réduits. Alors, Maître François Lafargue, quel type de personnes, en fait, vous défendez dans ces affaires qui mettent en cause les produits phytosanitaires ?
Toutes les personnes victimes des pesticides, à savoir notamment les exploitants agricoles, mais également leurs salariés, les salariés agricoles, ou encore les technico-commerciaux dans des coopératives qui procédaient à la démonstration des méthodes d'épandage ou qui vendaient des produits phytosanitaires et qui montraient comment faire les mélanges. Et également les salariés de l'industrie agroalimentaire qui ont été au contact de céréales traitées avec des produits dangereux.
Vous avez été le premier, au nom d'un exploitant agricole, à intenter une action contre Monsanto, le géant de la chimie américaine. Comment se décide-t-on à intenter une action en justice contre un tel adversaire ?
Tout simplement en constatant que la personne en question, l'exploitant agricole, a été victime d'un accident sur son lieu de travail et qu'il avait utilisé un produit qui était commercialisé et fabriqué par Monsanto. Donc c'est tombé sur Monsanto comme ça aurait pu tomber sur une autre société. Il se trouve que en lisant et en examinant les étiquettes du produit utilisé, nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas d'informations du tout sur la composition du produit, sur la dangerosité du produit. Ce produit avait été interdit un peu partout dans le monde, au Canada, en Belgique, et que nous avons pu retrouver la trace de courriers échangés en Belgique où Monsanto avait manifestement la connaissance précise de la dangerosité de ce produit. Donc il a à tout le moins pas respecté une obligation de vigilance qui consiste à retirer un produit qu'on sait dangereux du marché.
Autre témoignage, cette fois-ci nous partons dans les vignes du Bergeracois et Pascal Dervieux a rencontré Brigitte Alain qui est députée Europe Écologie des Verts mais qui est donc aussi viticultrice. Et elle s'exprime sur la difficulté de choisir une agriculture alternative pour des exploitants qui n'ont jamais été formés pour ça. Alors elle ne travaille pas en bio, hein, contrairement à ce que l'on pourrait penser, vous allez comprendre.
Donc voilà, ici on est sur, au milieu de notre exploitation, alors à la fois viticole mais pas seulement. Puisque nous avons des terres, des champs en céréales. Alors, on ne travaille pas en bio, d'abord parce que quand on est en bio, il faut être très présent. Donc, ce qui n'a jamais été notre cas, parce qu'on a toujours donné plus de temps pour le collectif que pour nous-mêmes. Donc, ça, c'est une des raisons. Et puis aussi, ni mon mari ni moi n'avons appris le métier. Nous l'avons appris en travaillant. Nous n'avons pas fait d'agronomie. Pour bien travailler en agriculture biologique, la première notion, évidemment, c'est l'agronomie. Beaucoup d'agriculteurs ont surtout appris l'agrochimie dans les dernières années et il faudra que la formation évolue, justement, pour revenir vers l'agronomie, ce qu'avait appris mon père, par exemple, à l'école agricole. Donc, voilà, il y a des choses qui devront revenir. Alors, nous ne sommes pas en bio, néanmoins, mais par exemple, si j'ai souhaité venir ici, au milieu du vignoble, ici, une parcelle qui va être plantée en vigne d'ici 8 jours. Parcelle qui a été arrachée il y a 7 ans, donc qui a pu se reposer. Et puis plus loin, une parcelle qui a été arrachée l'année dernière, sur laquelle on a implanté du tournesol. Vous ne voyez pas d'herbe dans le tournesol, mais il n'y a pas eu de désherbant. Il a été sarclé. Donc nous ne sommes pas en bio, mais nous essayons le plus possible de limiter l'utilisation des phytosanitaires.
Et à présent, Nicole Bonnefoy, qui est sénatrice de Charente PS et qui a récemment présenté le projet de loi agricole et qui dénonce, vous allez bien comprendre ce qui se passe là aussi.
D'abord, il y a une omerta dans l'agriculture et qu'on a du mal à s'expliquer, puisque les premiers concernés par la dangerosité de ces produits, ben c'est ceux qui les utilisent. Il n'y a pas de centre qui recueille les remontées totales de tout le territoire, des incidents, des accidents, des problématiques liées aux produits phytosanitaires. Et ensuite, il n'y a pas d'études non plus dans la durée. Je considère qu'il y a une sous-évaluation des risques liés à la dangerosité de ces produits.
Alors, Madame la sénatrice, on va pourtant vous objecter que, en termes d'information, en termes de récolte des données, il y a des agences officielles dont c'est le travail, théoriquement.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, par exemple, dans mon rapport, c'était la première remarque qu'on a faite, à savoir, il n'y a pas, ni à l'ANSES ni ailleurs, il n'y a pas d'endroit où on récolte les données. Je pense au registre des cancers, par exemple, il y en a très peu, il n'y en a pas dans tous les départements. Est-ce qu'un médecin, lorsqu'il rencontre un agriculteur qui a un cancer de la vessie ou un autre type de cancer, se pose la question de savoir quelle est l'origine et s'il a un doute sur cette origine, est-ce qu'il le fait remonter? Non, je ne suis pas convaincue. Est-ce que la MSA, puisque c'est la MSA qui est en première ligne sur ces questions-là, recueille toutes les données comme elle doit ou qu'elle devrait les recueillir et ensuite les fait remonter à un point donné qui pourrait être l'ANSES ou l'INVS, l'Institut National de Veille Sanitaire, et qui là pourrait à partir de là regrouper toutes ces données, analyser, etc. Ça n'existe pas. Ça. C'est pourquoi dans le rapport qui a été le mien, on préconisait l'organisation d'un système de phytopharmacovigilance, c'est un peu compliqué à dire, phytopharmacovigilance, qui fait remonter en un point donné, le cas échéant, l'ANSES ou l'INVS, toutes ces remontées de territoire, bien plus précisément que ça n'est fait aujourd'hui, pour ensuite décider de retirer tel produit, de faire des liens entre le produit et la maladie, etc.
Évidemment, c'est pas simple. On a les intérêts de la chimie avec de l'emploi, de l'agroalimentaire qui contraint les agriculteurs à fabriquer leurs produits d'une certaine façon. On est d'accord, hein, c'est pas un coup de baguette magique, on peut résoudre ça. Bon, on en a vu aussi récemment que la FNSEA a violemment manifesté devant l'Assemblée nationale en constatant dans le projet de loi agricole qu'il y avait des nouvelles contraintes sur les pesticides et ils refusent les interdictions des épandages, parce que ça. Enfin, pardon. Ils refusaient l'interdiction des épandages aériens, hein, sur une distance entre les différentes maisons d'habitation. Voilà, donc plus tard, et ben, la santé qui va payer tout ça, et ben, c'est ce qu'on appelle les externalités, hein, tout va bien. Donc vous en saurez plus demain à 9h sur France Inter, Interception avec Pascal Dervieux, l'émission aussi de Lionel Thompson, quand les victimes se rebiffent. 01 56 40 40 35, nous partons dans les Alpes de Haute-Provence.
Bonjour, c'est O2 mon amour. Ce week-end à Fort-Calquier, petit joyau écolo au cœur des Alpes de Haute-Provence, a l'honneur d'accueillir le village des sciences. Depuis hier et jusqu'à dimanche, la ville vit au rythme des expérimentations et des découvertes. Installée au couvent des Cordeliers, monument du XIIe siècle, des dizaines d'ateliers sont ouverts aux petits et grands. Découverte de l'univers avec l'Observatoire de Haute-Provence, voyage au cœur de l'ADN, molécule de la biodiversité, l'invisible, les ultrasons, la distillation, autant d'animations à découvrir toute la journée. Envie de savoir comment fonctionne une voiture équipée d'une pile à combustible, comment on peut rouler avec de l'hydrogène, envie de tout connaître sur les chauves-souris, des expositions et des démonstrations seront là pour tout expliquer. Des dizaines de mini-conférences sont prévues. Comment les arbres nous parlent du temps, la sauvegarde du patrimoine lavande, que l'on sait en danger en Provence, l'histoire de l'olivier. Tout ce week-end, nos scientifiques, ces chercheurs de rêve, ont décidé d'éveiller la curiosité des petits et grands par l'émerveillement. Alors, rendez-vous à Fort-Calquier pour voir et découvrir les nombreux enjeux qui se profilent à l'aube de notre 21e siècle.
Ben, c'est très joli Fort-Calquier, donc les fours à chaud, on n'est pas loin de la montagne de Lure et aussi de la Durance dans les Alpes de Haute-Provence. Quatrième et dernier sujet dans cette émission sur France Inter, CO de mon amour, votre magazine de nature et d'environnement, avec un homme que vous connaissez. Et on va s'intéresser à un archange. Alors, l'archange, si vous voulez, c'est un ange de première classe, hein. C'est un ange un peu chef. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Un petit tour du côté du Mont-Saint-Michel entre Bretagne et Normandie ne peut pas nous faire de mal. Et donc, nous allons découvrir ce merveilleux archange. Levons les yeux au ciel.
Oui, il a été d'actualité ces derniers temps parce qu'on a fait des travaux très importants pour enlever la route qui était une digue et qui empêchait la mer de faire le tour du mont. Et on l'a remplacé par un viaduc. Alors, l'histoire commence par une légende. En 709, l'archange Saint-Michel serait apparu à l'évêque d'Avranches, Aubert, et lui aurait suggéré de construire un sanctuaire sur le mont Tombes. Mmh. C'est comme ça qu'on appelait le mont Saint-Michel autrefois, le mont Tombes.
Et à côté, il y a Tombelaine, d'ailleurs.
Absolument. Oui. Il faut remonter l'histoire du mont Saint-Michel, qui n'a pas toujours été dans l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui, parce que pendant la période des glaciations, la mer était très basse. On pouvait traverser le Pas-de-Calais à pied. Oui. Et par conséquent, le mont Saint-Michel était dans les terres. Il était entouré de marécages, de bosquets, voilà. Mais on ne voyait pas la mer du Mont Saint-Michel à l'époque. Et puis, il y a eu un réchauffement. La mer est montée de 60 cm par siècle. C'est ce qu'on attend d'ailleurs du réchauffement climatique à l'horizon 2100. Oui. Pour nous, c'est très important. Alors on comprend que sur un grand nombre de millénaires, ça fait monter la mer jusqu'au niveau qu'on lui connaît aujourd'hui, autour du mont. Et le mont est devenu, par conséquent, une île. Alors, ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que les marées, qui sont sans doute parmi les plus fortes du monde, 14 mètres de dénivellation, c'est tout à fait considérable, les marées emmènent des sédiments. Et la baie a tendance, petit à petit, à s'ensabler, et par conséquent, la mer n'a pas toute sa liberté pour monter. Alors on est dans ce cas de figure étrange, c'est que la baie se sédimente et par conséquent la mer recule, et la mer monte, par conséquent la mer avance. Donc il y a un équilibre là qui est tout à fait subtil et tout à fait curieux.
Alors Jean-Marie, si cet ensablement devait continuer,
On arriverait au cas d'Aigues Mortes, qui était au bord de la mer à l'époque de Saint-Louis quand il est parti de là pour les croisades, et qui maintenant est dans les terres. Ça serait le même phénomène. Et ça ne se produira pas, puisqu'on a eu le soin de faire ces grands travaux qu'on a discutés pendant extrêmement longtemps, puisque déjà Victor Hugo avait fait un plaidoyer pour qu'on fasse un viaduc, et c'était au milieu du siècle dernier, au Parlement.
Tu es déjà visionnaire. Hein.
Tout c'est, à fait, c'est... absolument. Oui. Et ça s'est réalisé, en fait, pour le coup, cette année. Oui. Donc c'est un événement important dans l'histoire du Mont-Saint-Michel.
Alors, on ne sait pas ce que ce sera dans 1000 ans. En revanche, on va saluer quand même un homme qui s'appelle Jean-Claude Lefebvre, parce qu'il a donc étudié tout le fonctionnement, j'ai presque dire du Mont-Saint-Michel, mais des marais salés derrière.
Tout à fait. Alors il y a deux types de milieux qu'on voit très bien, qui sont très différents. Il y a les prés salés, sur lesquels pâturent des moutons, oui, qui sont les fameux moutons de prés salés. Et puis il y a les marais à Aubionne. Les marais à Aubionne, ce sont des marais qui sont recouverts par la plante qui a ce nom-là, et qui est une plante broussailleuse, qui pousse de manière extrêmement dense, et qui représente, du point de vue de l'écologie, une production, un rendement en matière végétale exceptionnel.
En matière sèche, c'est énorme. Hein. J'ai vu 20 tonnes de matière sèche par hectare.
Énorme. Et autant qu'une forêt tropicale. Voilà. C'est extraordinaire. C'est sans doute, en tout cas sûrement, pour la France, le milieu le plus riche en matière sèche. Alors ces aubionnes, la question, c'était de les faire disparaître et de faire des prés salés à la place. Parce qu'on était persuadé que ça ne servait à rien. Et c'est les travaux de Jean-Claude Lefebvre qui ont montré l'intérêt de ces marais à Aubionne, parce que l'Aubionne est croquée par des petites bestioles qui s'appellent des orchétias.
Ce sont des crustacés.
Ce sont des crustacés, naturellement. Ces orchétias vont donner des déjections, oui, des résidus que les crustacés vont rejeter. La mer, quand elle monte, reprend tout ça, l'emmène plus loin dans des vasières où ces déchets vont servir de nutriments à des diatomées, qui sont des algues microscopiques. Et ces diatomées vont servir à leur tour de repas pour les moules, pour les huîtres, pour les jeunes bars, et pour aussi un les certain sols, nombre etc. d'espèces de poissons. Par conséquent, le marais à Aubionne nourrit la mer. Et donc, il a beaucoup d'intérêt. Et il explique pourquoi la production de moules et d'huîtres et de poissons du Mont-Saint-Michel est réputée partout. Et on a ainsi découvert que ce qu'on croyait ne devoir servir à rien du tout était très utile.
C'est au contraire une clé de voûte.
Absolument.
Puisque la mer, donc, après, est ensemencée par les micronutriments.
Tout à fait. Oui, c'est ça. Et donc, vous voyez, c'est un cas intéressant de l'histoire de l'écologie, ces travaux de Jean-Claude Lefebvre, parce qu'ils montrent bien qu'il n'y a pas forcément de milieu qui ne serve à rien du tout. Et ce milieu qu'on considérait comme tout à fait négatif et inutile est en fait le lieu où vont s'élaborer les aliments de toutes ces bestioles qui vont être ensuite consommées par nous. Voilà, c'est ça l'idée importante. Alors il y a aussi beaucoup d'oiseaux au Mont-Saint-Michel. Oui. Et les oiseaux, il y a en particulier des...
Ça attire les naturalistes canards, et les chasseurs.
Voilà. Les naturalistes et les chasseurs. Alors ça donne ceci, si on fait le résumé. Les éleveurs, ils ont les prés salés. Les pêcheurs, ils ont la mer nourrie, comme on vient de le dire. Et les chasseurs, ils ont les oiseaux. Et si on régule les relations entre tous ces différents types d'intérêts et d'activités, on obtient un milieu écologique très riche. De sorte que le Mont-Saint-Michel, c'est au patrimoine mondial de l'humanité, et pour la culture, et pour la nature.
Voilà, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont pas forcément de fusil et qui ont aussi les oiseaux du Mont-Saint-Michel. Alors,
oui, tout à fait, absolument.
Voilà,
oui.
Donc c'est pour ça aussi que patrimoine mondial de l'UNESCO.
Tout à fait, absolument, et 3 300 000 visiteurs chaque année, c'est tout à fait considérable.
Ouais, mais c'est beaucoup moins que Disneyland quand même. Hein.
Oui, c'est beaucoup moins que Disneyland.
Non, c'est petit bras, ça, quand même, le Mont-Saint-Michel, l'archange à côté. Là.
Oui, oui. Ouais,
où est-ce que vous êtes, Jean-Marie?
J'aime beaucoup.
Merci beaucoup, Jean-Marie, pour cette promenade dans la Manche. Et on se retrouve très vite. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
Et on retrouvera, oui, bonjour Marie, d'ici une semaine, peut-être, non pas la semaine prochaine, donnez, la semaine prochaine, on va parler des sols avec Frédéric Danhé qui vient de sortir un ouvrage, Cessons de ruiner notre sol, France, ton sol fout le camp. Des choses très intéressantes et passionnantes à raconter sur le sujet. Merci à Sandrine Laurent, à Élise Christophe à la technique, sans oublier Anne-Laure Cochet qui a mixé délicieusement le reportage sur les roues et sur les oliviers, à Fabrice Lègle qui réalisait cette émission, à Albert Hook, Anne Gouzon qui nourrit les cils
de CO2 Mon Amour. Je vous retrouve. Alors, Bol de Nature, ce sera à 6h25 vendredi prochain. Nous aurons la Tulu Mon Petit Loup à 19h55 après les petits bateaux demain. Et puis, nous, la semaine prochaine. 01 56 40 40 35. Et puis le site de CO2 Mon Amour, vous en avez l'habitude. Nous allons à Toulouse.